Là, ok, d'accord. Proverbe chapitre 4. Alors, nous avons vu la dernière fois, les deux fois à vrai dire, hein, que nous sommes en train de parler du fait. Il y a quoi? Non. Ah! Excusez-nous, il y a ben. Ah, quelle horreur. Bon, ben, ça y est, hein, yo. Paradis des cafards. Les enfants. Ah, dis donc. Merci, hein. Proverbe chapitre 4. Eh ben. Il y a combien d'étoiles ici? Prends un petit déjeuner ailleurs, hein. Proverbe chapitre 4. Vous allez trouver verset 20. Donc, le premier message, nous avons vu pourquoi avoir un esprit fort, pourquoi être fort spirituellement. Verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, tu les gardes dans le fond de ton cœur. Pourquoi? Car ils sont la vie. C'est-à-dire que ce que tu vas vivre des choses qui sont dans le fond de ton cœur. Alors ton corps, tu sais d'où vient ta santé? Du fait que ton esprit est fort. D'où vient la vraie stabilité de l'âme? Du fait que ton esprit est fort. Du fond de ton cœur. Ce qui est, ce que tu mets dans le fond de ton cœur, c'est ce qui va donner la vie à tout ton être. Et notamment, comment, eh bien, recevoir cela? La Bible dit la parole de Dieu est ce qui va mettre la vie dans ce cœur-là. Et il dit effectivement, et non seulement ils sont la vie pour tous ceux qui la trouvent, et pour tout leur corps, la santé de notre corps. Est-ce que vous vous rappelez l'exemple que je vous avais donné la dernière fois pour notamment le taux de fer de ma sœur, hein, elle n'avait pas suffisamment de fer en elle, le taux était tellement, tellement bas qu'elle n'aurait pas dû fonctionner, elle n'aurait pas dû faire tout ce qu'elle était en train de faire. Humainement possible, la déficience était tellement grande que elle n'aurait pas dû fonctionner. Et le docteur était, je comprends pas. Ben, vous savez pourquoi? Parce que la vie qui est en elle est tellement forte que son corps a vécu de cette vie plutôt que de vivre uniquement sur ses propres ressources. La même chose avec un autre ami qui avait une déficience. Et le docteur dit, humainement, vous ne devriez pas faire. Pourquoi? Mais son esprit est fort. D'où l'importance pour les malades, eh bien, d'avoir un esprit fort. Alors, dans ce monde, eh bien, on amène des clowns à l'hôpital. Pourquoi? Ben parce que les enfants, quand ils voient un clown, ils rient. Et notamment, la joie provoque la force. Pour nous, la joie du Seigneur est ta force, la joie. Donc quand les enfants, un enfant qui est malade, si on peut l'amener à fortifier son cœur, son être intérieur, cette force va rejaillir sur son corps. Mais quand quelqu'un, eh bien, dit non, dans son cœur, il dit non. Donc, il peut, alors, évidemment, on veut avoir un corps qui est fort, on veut avoir tous les niveaux de notre corps qui sont le plus juste possible, mais ce qui est le plus important, c'est que la vie qui est dans ton cœur rejaillisse sur ton âme et rejaillisse sur ton corps, comme un geyser, et inonde tous les domaines de ta vie. D'où l'importance du verset suivant, il est dit, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. là que vient qu'est la vraie vie. Si tu gardes ton cœur et que la vraie vie de Dieu continue à jaillir de toi, elle rejaillira dans tous les domaines de ta vie. Et puis ensuite, Proverbe chapitre 20, verset 14, Proverbe chapitre 18, pardon, verset 14, il est dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, pas le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur peut faire? Qu'est-ce qu'un de vos amis qui est fort peut faire? Eh bien, il peut vous apporter la parole de Dieu qui va vous fortifier, mais si quelqu'un ne veut pas recevoir cette parole, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Ben, il n'y a plus grand-chose à lui donner. Or, il est dit, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, quand quelqu'un est fort dans son cœur, il a la force pour résister à la maladie. Il a la force pour résister au péché. Il a la force pour résister à tout ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Quand quelqu'un est fort dans son esprit et qu'il y a quelque chose qui vient contre lui, eh bien, il est fort et dire non, je refuse, ça ne se passera pas comme ça, plutôt que quelqu'un qui est faible et qui est comme une éponge, qui reçoit tout ce qui se passe autour de lui et qui est faible, qui est sans cesse en train de vivre en fonction de la pression extérieure et des circonstances qui l'entourent. Donc, il est dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Alors, c'est vrai qu'on veut prier pour les malades, hein, mais quand quelqu'un est malade, la meilleure des choses à faire, c'est déjà de relever son esprit. Un malade qui n'a plus d'espoir, ben, il n'y a plus grand-chose à faire. Mais au moins, commencer à pomper de l'espoir en lui, parce que son esprit va commencer à vouloir retrouver la santé, va vouloir se relever. Et quelquefois, on prie trop vite pour les malades. On prend pas, d'où on a entendu parler de, on pourrait dire, de clinique de la foi. Il y avait, par exemple, à Réma, il y a l'école de guérison. Il y avait une femme, Liliane Yeoman, qui était connue pour recevoir les malades. Elle était docteur de profession et elle-même, ayant été guérie par le Seigneur, a décidé d'apporter une aide spirituelle aux malades. Et elle enseignait, elle donnait la parole qui rendait l'esprit du malade fort et ils avaient la force de saisir leur guérison. Il faut être fort! Il faut être fort pour résister et pour recevoir les promesses de Dieu. Il faut être fort. Un faible ne peut pas recevoir les promesses de Dieu. D'où tu gardes ton cœur plus que toute autre chose et tu t'assures que tu es fort dans l'esprit. Alors, la dernière fois, on a vu comment être fort. Eh bien, on sait que ce qui nourrit l'esprit, c'est la parole. Tu auras un esprit fort si tu te nourris de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, pas simplement des versets, on a vu ensemble la parole de la foi, tu seras un bon ouvrier. Tu rappelles ce que Paul avait dit à Timothée, si tu es nourri des paroles de la foi et de la parole de la grâce, pas de la parole de la condamnation, même si c'est la Bible qui est prêchée, pas de la parole du jugement. Non, c'est la parole de la foi et la parole de la grâce qui va vraiment te nourrir. Alors, il y a un mot que l'on a entendu de nombreuses fois en France, et je sais qu'aux États-Unis, on est en train de parler énormément de nutrition. Et il était temps que les choses se fassent, parce que beaucoup de gens, à cause d'une mauvaise nutrition, un déséquilibre, eh bien, sont malades. Alors, Je ne sais pas comment on peut traduire ça en anglais, hein. Peut-être que Catherine va pouvoir nous aider. Mais vous avez entendu le nom malbouffe? Junk food? Junk food, probablement, hein. Junk food. La malbouffe. Alors, il y a quelque chose qui est. On a besoin de prendre conscience que bien manger spirituellement, ça n'est pas une option. Bien manger spirituellement est vital. Et la malbouffe spirituelle existe et elle produit elle aussi des dégâts. Alors, on va voir ce qui se passe quand on mange mal spirituellement. On va passer de la moindre des conséquences à la plus grave des conséquences. Je vous donne la définition de la malbouffe. Alors, la malbouffe est le nom péjoratif donné à la nourriture jugée mauvaise sur le plan diététique en raison notamment de sa faible valeur nutritive, c'est-à-dire ce sont des gens qui mangent mais qui ne se nourrissent pas, donc qui sont faibles ou qui sont malades ou qui meurent. Et donc, elle est mauvaise en raison de sa faible valeur nutritive et de sa forte teneur en graisse ou en sucre. Le sucre est bon, la graisse est bonne, mais quand la teneur est trop forte, la graisse ou le sucre deviennent nocifs. Par exemple, les hamburgers, les hot dogs, les frites, les pizzas. Horreur pour nous qui sommes sur la Côte d'Azur. Et les sodas, voilà, des exemples types. Et les crêpes sont OK. Alors, cette mauvaise manière de se nourrir, cette mauvaise nutrition peut favoriser surcharge de poids. Bon, à la limite, on peut s'en accommoder. L'obésité. Le diabète, les maladies cardiovasculaires et puis plus graves, des cancers. Donc, on peut voir que mal se nourrir dans le naturel peut avoir des conséquences qui sont dramatiques. Ce qu'il nous faut savoir, c'est que dans le royaume spirituel, eh bien, mal se nourrir peut aussi avoir des conséquences dramatiques. Bien manger spirituellement va nous permettre d'être forts, avec toutes les répercussions que ça a dans notre vie privée, mais c'est-à-dire résister au péché, garder l'espoir quand tout va mal, continuer à croire que Dieu est celui qui nous sortira de cette situation au lieu de se laisser abattre, résister à la maladie. Aider ceux qui sont plus faibles. Donc, il est important que nous soyons forts, mais on ne peut pas être fort si on mange mal spirituellement. Alors, c'est vrai que j'entends par exemple là, il y a une publicité qui est faite pour des conférences. Et quand j'ai été, donc, je reçois les annonces, et quand j'ai cliqué sur le site, il est question du Naziréat. Alors, le Naziréat, avec tout ce que l'on peut entendre, et on veut donc dire qu'il y a un type de consécration particulière qui fait que on sera plus proche de Dieu, etc. Et je me dis, mais quand les gens vont et qu'ils écoutent cette doctrine, ma question est, qu'est-ce qu'ils sont en train de manger? Alors, la description telle qu'elle est faite est absolument professionnelle. Et parce que le plan est bien monté, les gens se disent, oh là 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 là, celui qui prêche ça, il sait ce qu'il dit, je vais manger. question est, est-ce que ce que tu manges spirituellement t'affecte dans ta vie privée? Parce que si ce que tu manges spirituellement ne te donne que des visions, en ayant une vie privée catastrophique, ça me dit que ce que tu dis, ce que tu manges, est mauvais. Il y a un déséquilibre dans ta nourriture spirituelle. Encore une fois, ça n'est pas la communion fraternelle qui nourrit un esprit humain. Ça n'est pas la louange qui nourrit un esprit humain. Ça n'est pas la prière qui nourrit un esprit humain. C'est la parole de Dieu. Alors maintenant, il est vrai que si tu es... Est-ce qu'il est possible peut-être que c'est... Alors, si c'est vrai que si ton esprit est bien nourri par la parole de Dieu, ta prière va être comme elle devrait être. Ta louange sera comme elle devrait être. Et ta communion sera comme elle devrait être. Seulement, on a inversé les choses, si bien que très souvent, quand des églises s'attachent uniquement à la parole de Dieu et ne passent pas d'une vague à la mode, une vague doctrinale à la mode, eh bien, on dit, eux, ce sont des retardés. Pourquoi? Parce que, soi-disant, ils ne sont pas dans le vent. Alors, il y a des vagues. Hein. Par exemple, là, ben, une des vagues, c'est peut-être ce fameux Naziréa. Or, la parole, elle a ses fondements. Et tout ce que l'on voit comme doctrine ne devrait jamais, jamais affecter le fondement de la parole qui est posé en nous. Alors, encore faut-il, il est vrai, que les chrétiens reçoivent le fondement de la parole de Dieu. Eh bien, aux chrétiens de choisir une église où le fondement est posé. Aussi simple que ça en ce qui me concerne. Maintenant, regardez avec moi dans Tite. Sais-tu que tu vis ce que tu crois? Tu ne vis pas autre chose que ce que tu crois. Par exemple, si tu crois que tu dois chercher à plaire à Dieu par tes bonnes œuvres, tu seras versé dans les bonnes œuvres. Tu vas passer toute ta vie à faire des bonnes œuvres. Si tu crois qu'il est mal de porter du maquillage, eh bien, tu n'en porteras pas. Si tu crois que tu ne peux adorer Dieu que le sabbat, le samedi, tu ne travailleras pas. Si tu crois que la piété passe par la pauvreté, tu refuseras toutes les promotions qui te permettront de gagner plus d'argent ou, quand tu en as, tu ne sauras pas en garder pour toi. Nous ne vivons que ce que nous croyons. Alors, il est important de vérifier ce que je suis en train de croire. Et la foi vient comment? La foi vient en entendant. La foi vient en entendant. La foi, pour le pire, vient en entendant parler du mauvais. La foi, pour le meilleur, vient en entendant la parole de Dieu. Là, si on n'entend que des traditions, ou si ce que l'on entend est teinté de bonnes œuvres, si ce que l'on entend est teinté de condamnation, je vais vivre ma vie de tous les jours sous cette condamnation. Je vais vivre ma vie de tous les jours par les bonnes œuvres. Quelquefois, les gens disent, ce que je reçois dans une église ou ce que je lis, vous savez qu'on lit en entendant. On ne lit pas qu'avec les yeux. Vous avez remarqué que souvent, si on lit vraiment un livre et qu'on est concentré sur ce livre, on le parle à l'intérieur, même s'il n'y a pas un mot qui sort de notre bouche. C'est-à-dire, ça va droit dans notre cœur. Et on pense, oh, tu sais, ce que j'entends à l'église n'affecte que ma vie spirituelle. D'où vient cette chose. Si ce que tu entends à l'église, c'est Dieu ne te guérit plus, dans ta vie de tous les jours, le jour où la maladie frappe à la porte, tu l'accepteras. Tu n'auras pas la force d'y résister. Si tu entends à l'église que Dieu te veut pauvre, tu n'auras jamais d'ambition pour une carrière. Quelqu'un qui poursuit sa carrière jusqu'au bout, ben c'est quelqu'un qui a grande chance de changer de standing. Ce que tu entends, vous croyez, l'être humain est fait pour vivre d'après les paroles. Les paroles peignent des images dans notre cœur. Et après, eh ben on va à la recherche de ces images, en disant, oh, je veux ce que je vois là, même si nos yeux naturels ne le voient pas encore. Mais l'être humain, quand Jésus a dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, à vrai dire, l'homme vit de la parole. Mais Jésus a remis les choses dans leur contexte et il a dit, il faut que l'être humain accepte de vivre de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui nourrit un esprit humain? La parole. À toi de vérifier si la parole que tu entends est juste ou si elle n'est pas juste. Est-ce qu'elle est pure ou est-ce qu'elle n'est pas pure? Est-ce qu'elle transmet la foi ou est-ce qu'elle transmet la condamnation? Est-ce qu'elle transmet la grâce ou est-ce que... Qu'est-ce qu'elle transmet cette... Est-ce que c'est la parole de Dieu? Vous allez trouver Tite chapitre 1 et nous allons voir... Tout comme dans le naturel, quelqu'un qui se nourrit mal, eh bien, va commencer à, au-delà d'un manque de confort personnel et de sa ligne qui change, eh bien, à un moment, il risque de voir certaines maladies apparaître. Vous savez que les cancers, vraiment, quelquefois, ce sont des démons hein, qui s'attachent à un corps humain. Alors ça, c'est très facile de s'en débarrasser, hein, en chasse. Très facile. Encore faut-il après que le malade soit suffisamment fort pour croire ce qui s'est passé. Mais sinon, les cancers, eh bien, alors évidemment, on est dans une industrie pharmaceutique qui est telle qu'on nous rend extrêmement dépendants des médicaments et des produits chimiques. Mais à vrai dire, les trois quarts des cancers, il suffit de rééquilibrer la nourriture. Certains mangent moins de viande, d'autres mangent plus de viande, certains absorbent moins de sel, d'autres retirent un peu de sucre, d'autres plus de légumes, d'autres... Voilà, ça est un exercice et du repos et on est bien. Alors, regardez de la même manière dans notre vie spirituelle, quelqu'un qui se nourrit mal du style... Un snack froid par semaine, c'est quelqu'un qui va voir des conséquences dans sa vie, pas simplement spirituelle, dans sa vie de tous les jours, parce que la qualité de la vie spirituelle qui est en toi affecte tous les domaines. Regarde maintenant Tite chapitre 3, verset 8. Il est dit, cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Mais évite les folles discussions, les généalogies, la discorde et les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles. Et vaine. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche et se condamne lui-même. Donc, apparemment, quand quelqu'un enseigne des choses comme cela, la Bible dit, tu lui donnes un premier avertissement, tu lui donnes un deuxième, et à un moment, eh bien, c'est toi qui, une autre version dit, tu le rejettes carrément. Mais regardez, il y a des choses qui sont enseignées, et la Bible nous dit, elles sont inutiles. Elles sont inutiles, et elles sont vaines. prise en parole de Dieu qui est supposée te rendre fort et affecter tous les domaines de ta vie, ou alors tu as écouté quelque chose à la télévision, une prédication quelconque ou un enseignement, peu importe, mais la Bible dit que ce sont des choses qui sont au pire, ce que tu as entendu t'a fait perdre ton temps. Ça, c'est un leurre. Parce que si je sais que ce que je vais entendre ne me sert à rien, pour moi, c'est vite fait. Plutôt que de m'ennuyer, je vais aller prendre un café à une terrasse au soleil. Et au moins, ça aura servi à quelque chose. Non ? Mais il y a des choses... Alors, devinez ce qui se passe. Si la Bible dit que ces choses-là qui pinaillent sur des choses qui servent à rien, ce sont des choses qui n'appartiennent même pas à notre nouvelle naissance. Et si la Bible dit qu'elles sont inutiles, elles sont vaines, elles ne servent à rien. Ce que tu as mangé, c'est comme si tu n'avais rien mangé. Ça ne t'a servi à rien. C'est-à-dire que tu ne seras pas plus fort spirituellement, tu ne seras pas plus stable émotionnellement et tu ne seras pas en meilleure santé. Ça ne t'a servi à rien. Grosso modo, tu as perdu ton temps. Bon, c'est pas la pire des choses. Hein. C'est pas la pire des choses. À la limite, bon, vous dites, s'il n'y a que cela. Quel contraste avec 2 Timothée, chapitre 3, où il est dit au verset 16, toute écriture, même le livre des Nombres, même le livre de Lévitique, même l'Apocalypse, c'est ces livres qu'on a tendance à... Hein, le livre du prophète Agée, Amos, certains croient que même le livre Boursin est dans la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Là, il y en a qui se lancent dans des généalogies qui sont inutiles, des commentaires bibliques qui ne leur servent à rien, qui se disputent pour des choses sur la loi, du style combien d'anges peuvent tenir sur la tête d'une épingle. Mais attendez, Pierre dit ça ne sert à rien. Quel contraste avec l'écriture. Il nous est dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire n'importe quel chrétien né de nouveau, soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Bien, maintenant, Tite chapitre 1. Regardez avant, gardez Tite, hein, mais regardez Hébreux tout de suite après, chapitre 6. Hébreux chapitre 6, il est dit, verset 1, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, et la perfection veut dire maturité. Sans poser de nouveau le fondement, voilà le fondement de la vie chrétienne, la repentance des œuvres mortes, c'est-à-dire nous savons que faire des œuvres pour mériter le salut ne sert à rien. Nous savons que nous ne gagnons pas l'amour de Dieu, nous ne négocions pas notre entrée au ciel. Non, nous avons renoncé aux œuvres à servir Dieu ou à gagner le salut par les œuvres mortes. Et la foi en Dieu... Vous savez, certains sont en colère quand on prêche le message de la foi, mais la Bible dit que ce qui fait partie du fondement de la vie chrétienne, eh ben, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. Dans le fondement, il y a l'imposition des mains. L'importance de savoir que l'on peut imposer les mains aux malades. On peut imposer les mains pour que quelqu'un soit rempli du baptême du Saint-Esprit. On peut imposer les mains pour qu'il y ait un transfert d'onction. On peut imposer les mains pour que quelqu'un soit séparé pour l'œuvre du ministère. On peut imposer les mains pour tant de choses. La Bible dit que ça fait partie du fondement de la vie chrétienne, c'est-à-dire le fondement, c'est jusqu'à aujourd'hui. Les chrétiens du 21e siècle ont besoin que ce fondement soit posé dans leur vie chrétienne. Et après, toutes les autres doctrines vont s'ajouter. On ne remplace pas. Encore une fois, quelquefois, le Saint-Esprit met l'accent sur un sujet particulier. Peut-être la consécration, encore faut-il qu'il soit prêché d'une manière juste. Mais on ne met pas de côté le fondement pour recevoir cet enseignement sur lequel le Saint-Esprit met l'accent pour le moment, ou un sujet comme la louange, ou comme la guérison, ou la dîme, ou ce que l'on veut. Non, on ajoute cela à la fondation qui a été posée. Qu'est-ce qui fait partie encore de la fondation? Ben, la résurrection des morts. Et puis pas que des morts en Christ. La résurrection des morts. Nous devons être assis, nous devons savoir ce qui va se passer une fois que l'on va tous se retrouver devant le Seigneur. Et la Bible dit aussi un autre sujet, c'est le jugement éternel. Ce jugement arrive et ça, cet enseignement ou cette doctrine doit être établie en nous. Si nous avons ces fondements en nous, eh bien nous avons un bon fondement. Maintenant, Tite, chapitre 1. Donc, quelles sont les conséquences de la malbouffe spirituelle? Vous savez, quelquefois, les gens disent, moi, je vais à l'église. Oui, mais tu comprends, j'ai tous mes amis qui sont là-bas. Dis-moi, tes amis ne suffisent pas quand tu passes par un temps de crise. Parce que la Bible dit, c'est ce qui est dans ton esprit qui va te soutenir. Quelle différence! Quelle différence! Oui, tu comprends, dans cette église, j'aime la louange. Mais la louange ne peut pas, elle va t'inspirer la louange. La louange va te permettre de libérer ta foi. Mais quelle foi si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas le fond, au moins le fondement. Oui, mais tu sais, dans cette église, on prie. Si tu n'as pas la parole de Dieu, ta prière, elle va où? On prie par la foi. Et on prie en fonction de la révélation que l'on a. La base, c'est la parole. Il est temps que, dans le corps de Christ, et je parle de notre pays en France, et j'ajouterai Monaco, on a une déficience nutritive spirituelle qui fait que n'importe quel prédicateur qui élève le ton, on dit, Dieu, quand il a un nom réputé, ça veut dire que je peux manger. On n'a jamais appris aux chrétiens l'importance d'être bien nourri. Et le pire, c'est qu'on n'aura pas forcément donné les clés pour discerner la bonne nourriture. Alors, ce sont tous des chrétiens qui ont des rêves, qui ont des visions. Mais alors, quand on les entend donner les conseils qu'ils donnent aux autres, on se dit, c'est pas possible, là. Ça ne tient pas la route, ce qu'ils disent. Dans leur vie privée, ils vivent de défaite en défaite, mais ils ont un langage spirituel, donc ça doit être OK. Non, 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 non. Je vis ce que je crois. Est-ce que c'est important? Est-il important d'être bien nourri spirituellement? Ça, c'est pas simplement important, c'est vital. C'est vital. Alors, ici, regardez Tite, chapitre 1, il est dit ici, verset 14, alors ce témoignage est vrai, donc vous lirez ce qu'il y avait au-dessus avant, hein. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'ils font, quand on voit les décisions qu'ils prennent, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais pas simplement les décisions qu'ils prennent pour leur vie spirituelle à l'église, les décisions qu'ils prennent dans la vie me disent qu'ils connaissent Dieu ou qu'ils ne le connaissent pas. Qu'ils sont bien nourris ou qu'ils sont mal nourris. Qu'ils ne mangent que des Smarties ou qu'ils mangent des secs. Maintenant, il y a un mot qui est très important ici. Il est dit qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques ou à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. C'est-à-dire que, on a vu tout à l'heure, il y a des choses que l'on entend et au pire, ils ne nous servent à rien. C'est inutile, on a perdu notre temps. Mais bon, il n'y a pas trop de dégâts. Il y a d'autres choses que l'on va entendre qui peuvent détourner de la vérité. Ce n'est pas simplement des hommes, des enseignants qui vont détourner la vérité, c'est ce qu'ils apportent qui risque de détourner de la vérité. Combien de... Par exemple, il y a une doctrine à laquelle je pense que l'on a entendu il y a des années dans le corps de Christ, c'était de suivre tous ces grognements. Il fallait, pour être spirituel, grogner comme un ours, aboyer comme un chien. Vous vous rappelez pas? Ou alors, c'était cette doctrine qui disait qu'il fallait prendre l'avion pour aller au-dessus des gratte-ciel, pour, soi-disant, abattre ces forteresses qu'il y avait dans les lieux spirituels. Quand on lit la Bible, on se rend compte que les forteresses sont dans notre tête. D'accord? Mais vous savez que ça détourne de la vérité. Alors ça, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi? Pourquoi? C'est marqué juste au-dessus. Il est parlé d'une foi qui est saine. Le mot saint ici, S-A-I-N, c'est le mot en grec qui veut dire hygiène. Alors ça, c'est beaucoup plus grave. Parce que la Bible nous dit que quand on est nourri, on a une foi qui va répandre de l'hygiène dans notre vie. C'est quand quelqu'un a une bonne santé, quand il a une bonne hygiène de vie, c'est quelqu'un qui est fort et c'est quelqu'un qui résiste. Par exemple, les plantes, je ne sais plus si c'est ici ou à Marseille que je le disais, eh bien, j'avais des plantes qui n'arrêtaient pas de prendre des pucerons. Alors évidemment, il y a l'excuse que mes plantes sont sur une terrasse, l'air circule moins et tout ça. Mais bon, moi ça ne me suffisait pas. Parce que je me dis, il n'y a aucune raison. J'ai des plantes, elles ont intérêt à bien se porter et à me donner des fleurs parce que c'est pour ça que je les achète. Non? Voilà. Et je suis allée donc consulter un jardinier. Ce qui est assez intelligent, c'est d'aller vers des gens qui en savent plus. Voilà. Ah, je me suis dit, je vais faire appel à un professionnel. Il est venu à la maison, il a regardé les plantes et il m'a dit, est-ce que vous leur donnez suffisamment à manger? Alors, je dis, ben, je les arrose et quelquefois, je les noie tellement je les arrose. Non, il me dit, est-ce que vous leur donnez à manger? Alors, je me suis dit, mais quel impact avec ces moustiques, quel lien y a-t-il? Ben, il m'a dit, c'est simple, quand une plante est bien nourrie, elle résiste elle-même aux pucerons. La même chose pour nous. Quand on a un esprit fort, on résiste à la maladie, on est fort pour résister au péché, on est fort pour faire la volonté de Dieu, même quand ça ne nous plaît pas, on est fort dans notre esprit et notre chair, elle, on sait comment lui dire non, on sait comment lui dire tu te tais, on sait comment lui dire non, je ne vais pas te suivre, on sait comment résister aux voix extérieures. Alors, il y a des paroles que l'on entende, au pire, elles sont inutiles. Il y en a d'autres qui vont nous détourner de la vérité, c'est-à-dire qui vont atteindre notre hygiène. Ce qui veut dire que l'on s'ouvre, eh bien, à toutes sortes, parce qu'on est faible, on s'ouvre à toutes sortes de faiblesses spirituelles, à toutes sortes de maladies, à toutes sortes de confusions, à toutes sortes de doutes, etc. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la malbouffe spirituel. Et puis 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Quand Dieu nous dit tu gardes ton cœur plus que toute autre chose et tu fais attention à ce qui te nourrit, eh bien, il a raison de nous le dire. Et on a le droit, on a le devoir d'être exigeant. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Ce verset est très très important, même verset 1. L'apôtre Paul dit à Timothée, je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche tes idées. Hein? Prêche tes rêves. Prêche ce que tu as lu dans les journaux. Non. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire faire du forcing. Hein. Très souvent, eh bien, au contraire, alors évidemment, pour nous, prêcher derrière le public, c'est clair, on va prêcher derrière. Mais quand on est dans la vie de tous les jours et que l'on est autour de gens, eh bien, ça ne veut pas dire enfonce la parole dans le gosier des gens comme si c'était des oies. Parce qu'en général, eh bien, on a le résultat obtenu, on les gave. Et si on les gave, normalement, on ne les voit plus autour de nous. Donc la meilleure des choses, c'est de se taire. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais la Bible nous dit « insiste en toute occasion ». Ça ne veut pas dire « gave les gens comme des oies ». Cela veut dire « ne fais pas de compromis quand tu dois parler ». Si tu dois parler, ne fais pas de compromis. Non, reste ferme avec la parole de Dieu. Quand les gens autour de toi disent « Oh là là, tu sais, il y a cette fameuse grippe qui arrive et l'économie va nous faire couler », toi tu restes fidèle à la parole. Non, je ne me laisserai pas influencer. Et s'il m'est permis de parler, s'il est juste que je parle, alors dans ces cas-là, je dirais « Mon Dieu, pourvoir à tous mes besoins ». D'accord ? C'est dans ce cela, insister, ne fais pas de compromis. Ensuite, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire, ne change pas ce qui est juste pour te faire des amis ou les garder. Ne cherche pas à plaire aux gens. Ne joue pas le caméléon. Non. Reste, Dieu dit. Que ça t'arrange ou que ça ne t'arrange pas. Convainc, reprends, exhorte avec toute patience. Et en instruisant. Verset 3, pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, c'est-à-dire la doctrine qui va leur permettre d'avoir une bonne hygiène de vie, un mariage fort, des enfants élevés dans le Seigneur, des corps en bonne santé, des volontés qui sont fortes, des émotions qui sont stables, une intelligence qui est rapide, des finances qui sont en ordre, une vie avec Dieu qui est juste. Voilà une hygiène. Une bonne doctrine va produire ce style de vie-là. Mais la Bible dit qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la doctrine saine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront des maîtres, d'où le danger d'aller d'église en église, parce que ce sont des gens qui se donnent des maîtres, ils choisissent ce qu'ils veulent écouter. Il est dit, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables qui, au pire, ne leur servent à rien, à leur faire passer du temps et à leur faire croire qu'ils ont appris quelque chose, ou un petit cran au-dessus risque de les détourner des doctrines importantes de la Bible. Il est dit, mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances. Ben, quelquefois, quand on veut résister à ce qui va à contre-courant, on risque de souffrir. Fais l'œuvre d'un évangéliste et ensuite remplis bien ton ministère. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit qu'il y a un temps où les gens, eh bien, voudront entendre uniquement ce qu'ils veulent, exactement comme des enfants qui ne veulent manger que du dessert. Tu imagines, tu as préparé un repas à tes enfants, tu avais un steak haché, de la purée et des légumes, hein, et puis ensuite tu vas dire, tu auras un peu de fromage et tu auras un dessert après. Et l'enfant, ah, je veux pas manger. Ah, tu dis, bon, écoute, exceptionnellement, ne mange que la purée et le dessert. Puis deuxième, troisième repas, et il dit, moi, je veux que du dessert. Et un jour, eh bien, vous trouvez la porte ouverte et vous voyez votre bonhomme en train de manger un dessert chez la voisine qui lui a donné ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? D'abord, vous dites, attends là, j'ai préparé quoi? Mais ça, c'est encore un détail. Vous dites, mais il a besoin, pour réussir, pour être fort, il a besoin de tout ce que je lui ai préparé. Et il y a plus encore. C'est qu'ensuite, il y a la âme qui vient contre la voisine, qui ne lui donne que ce que l'enfant a envie d'entendre, quitte à ce qu'il soit déficient au point de manquer de ce qu'il lui faut pour réussir la vie. Vous comprenez? Il est dit, il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre, c'est-à-dire, hein, je reprends l'exemple du moustique ou de l'ortie, quand tu as été piqué par un moustique, qu'est-ce qui se passe? Bah, on se gratte. Mais il vaut mieux arrêter tout de suite, parce que hein, ça va augmenter la démangeaison, et il y a des gens même qui se grattent jusqu'au sang. Ils n'arrivent plus à s'arrêter. Eh bien, il y a des gens, ça va leur donner, ils vont entendre des choses qui leur font plaisir, qui ne leur sert à rien. Des choses qui ne vont pas les rendre forts dans la vie. Des gens qui ne vont pas leur transmettre la foi, la grâce, la sagesse de Dieu. Des gens qui risquent de les déséquilibrer dans leur couple, déséquilibrer dans leurs affaires, mais ils ont envie. Et la Bible dit, ils vont être continuellement en train de dire, allez, oh ça déborde, et donne-moi encore de cette doctrine, répète-moi les anges, oh les démons, oh là là, l'intercession, oh l'autre doctrine là, Élie, le retour d'Élie. Et plus ils entendent, et ils ont envie d'entendre, la Bible dit, ils ne supporteront plus la doctrine saine. Pourquoi? Parce que la doctrine qui est saine, elle ne sait pas qu'enseigner. Elle corrige. Elle te met au défi. Elle te reprend. Elle t'exhorte. C'est-à-dire, Dieu te donne ce dont tu as besoin. Vous savez, je ne sais pas ce que vous vivez dans le détail de votre vie, mais ce que je sais, c'est que pendant que je prêche, moi ou n'importe quelle personne qui prêche la parole, pendant que certains sont encouragés par le message, d'autres sont repris, d'autres sont enseignés, d'autres sont équipés, d'autres sont redressés par le même message, si c'est la parole de Dieu. C'est une œuvre qui est complètement surnaturelle et qui répond aux besoins que vous avez besoin, que vous avez dans votre vie. C'est pour ça que quand les gens vont d'église en église et qu'ils ne font que choisir leur dessert, le Saint-Esprit ne peut pas faire un travail. Et vous regardez la vie des gens, 10 ans après, ils sont toujours dans les mêmes ornières. Ils n'ont pas changé. Ce qui n'est pas un compliment dans ce cas-là. Bon, on voit ici, il est dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la doctrine qui peut leur apporter une hygiène de vie, mais ils se donneront des maîtres. Donne-moi, j'ai envie d'entendre ça. J'ai envie. La Bible dit, à cause de ça, ils détourneront leur oreille. Tu sais, être détourné de la vérité de la parole, être détourné, alors surtout du fondement, c'est-à-dire amener quelqu'un à retomber dans des œuvres du style, il faut que tu pries 4 heures pour être spirituel. Et ça, c'est une œuvre sous le couvert de la soi-disant intercession. Si tu ne loues pas le Seigneur comme je loue, hein, ou comme c'est à la mode, non, On a le fondement, il est bien posé, et ce fondement, on ajoute et on filtre tout à la lumière de cette rédemption révélée. Mais assurons-nous que nous gardons le goût pour la parole de Dieu. Assurons-nous, rappelez ce qu'il est dit dans Pierre, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Alors évidemment que normalement, dans un signe de croissance normale, on passe du lait à la nourriture solide. Donc, il ne s'agit pas de rester au lait de la parole de Dieu, mais il s'agit de garder le même goût pour la parole. Il est dit désirer. C'est sur ce désir qu'est mis l'accent. Un nouveau-né, quand il a faim, ça s'entend, ça se sait. Eh bien, même adulte, on devrait garder cette même faim. Pourquoi? Parce que ça va affecter la vie qui est dans ton esprit et cette vie-là va affecter tous les domaines. On ne va pas à l'église en fonction de là où sont nos copains. On ne va pas à l'église en fonction de ce que, ouais, mais tu comprends, moi j'aime bien le bâtiment, moi j'aime bien ci, moi je connais, non. Est-ce que la parole de Dieu est prêchée? Oui, alors dans ce cas-là, mange. Non, change de restaurant. C'est aussi simple que cela. Aussi simple. Mais je vais vous dire, il n'y a aucune difficulté quand vous annoncez une conférence où il n'y a que des prophètes. Ah là là, c'est magnifique, hein. On fait la queue parce qu'il n'y a plus de place pour rentrer. La parole de Dieu, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour équiper, afin que quoi? Que nous soyons prêts à faire les œuvres que Dieu. Moi, j'ai remarqué que tous ceux qui vont après les fables, les généalogies, les derniers trucs comme ça, ce sont tous des gens qui n'arrêtent pas de dire « donne-moi, donne-moi », ils ne font pas l'œuvre du ministère. Vous avez remarqué ça? Vous les prenez 10 ans après, ils sont toujours à la recherche des mêmes choses, en train de réclamer, soi-disant, des révélations. Mais comment se fait-il que le Seigneur n'arrive jamais à les placer dans leur œuvre? Il y a un truc quand même. Vous dites, tu es remonté, oui? Oui, parce que, je vais vous dire, il y a des conférences qui feraient mieux de fermer leurs portes. Il y a vraiment des conférences qui induisent dans l'erreur. C'est le pasteur qui... Non, mais attendez, hein. Pas toutes, évidemment, hein. C'est bien, et certaines, vous les avez, vous savez ce qui se prêche. Allez-y, mais s'il vous plaît, hein, faites attention à ce que vous mangez. Qu'est-ce que ça produit? Et puis, je dirais, quand vous allez en vacances, eh bien, allez en vacances. Et arrangez-vous pour aller dans une église. Vous dites, oui, mais tu sais, alors là, du coup, je vais te dire, là, la parole, elle n'est pas vraiment... Eh bien, au pire, tu n'as pas mangé, mais si tu manges ailleurs, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux quand même être fort. Mais tu vas et tu apprécies la communion fraternelle. Il y a différentes raisons. Tu apprécies le fait d'avoir pu apporter ta louange au Seigneur. Apprécies le fait d'avoir pu apporter tes offrandes à ton Dieu. Est-il important d'être bien nourri? Est-ce que la malbouffe spirituelle est grave? Alors, on a commencé à voir les conséquences et on va aller crescendo la semaine prochaine. Je vais continuer à vous montrer combien cette malbouffe spirituelle peut faire des dégâts. Des dégâts. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Amen.